Vous écoutez, on lit pour vous.
Mythes et légendes informatiques, pas toutes fausses. Un texte d'Alain McKenna paru le 20 mai 2026 dans la presse. Luc Dumoulin, un lecteur, demande « Un pirate informatique peut-il accéder à un ordinateur éteint? » Ah, comme bien des choses en informatique, la réponse tient en ce néologisme tout aussi savoureux que frustrant. Oui. Un ordinateur complètement débranché de la prise murale et sans batterie offre la sécurité absolue. Sans électricité, l'appareil devient une simple brique de métal et de plastique. C'est une autre histoire si la machine demeure branchée. Les gestionnaires de parcs informatiques utilisent parfois une fonction de réveil à distance appelée Walk-on-LAN. W-O-L, qui leur permet d'appliquer des correctifs la nuit. Un cyberpirate assez sophistiqué pourrait exploiter ce canal pour allumer votre ordinateur à distance. La réalité invite toutefois au calme. Ce scénario est digne des films d'espionnage et il ne vise presque jamais les gens ordinaires. Les cybercriminels cherchent surtout le volume et la facilité et vont préférer lancer leur filet sur des milliers d'appareils déjà allumés, plus vulnérables et connectés à l'Internet. Réveiller une machine éteinte demande un effort rarement rentable. Pour une tranquillité d'esprit totale, la solution est d'appuyer sur l'interrupteur de votre barre de surtension. Sans courant, l'intrusion relève de la science-fiction. Sinon, de bons mots de passe et des logiciels à jour suffisent pour dormir sur vos deux oreilles. Marc Girard, un lecteur, demande « Que fait-on avec ce fameux message que plusieurs partagent sur Facebook qui fait référence à un reportage de l'émission américaine 60 minutes et qui nous invite à le copier-coller à notre tour pour mettre fin aux publicités sur notre fil public. Ce message fait partie de tous ces canulars viraux qu'on voit passer sur les réseaux sociaux. Ignorez-le complètement et ne le relayez pas à vos proches. Facebook se nourrit de vos données et de la publicité. Une simple déclaration sur votre fil social n'a aucune valeur juridique face aux interminables conditions d'utilisation acceptées lors de la création de votre profil. En plus, l'émission 60 minutes n'a jamais diffusé un tel message. Meta est en bourse depuis 2012 et cela ne modifie en rien les règles du jeu. Un simple texte copié-collé sur son site ne dictera pas la loi à ce géant technologique. Publier ce message pollue le fil d'actualité de tout le monde avec une fausse information. Pour protéger votre vie privée, explorez les véritables paramètres de votre compte. Meta offre des options pour restreindre la collecte d'informations et le ciblage publicitaire. Ne perdez pas votre temps avec ces chaînes de lettres virtuelles. Rappelez-vous que l'élimination complète de la publicité demeure impossible sur un service gratuit. Ah, et n'oubliez pas de partager cet article 5 fois. Vous hériterez d'une fortune en lingots d'or. Jérôme Lamontagne, un lecteur, demande « Depuis quand les monopoles sont-ils légaux? » Si c'est dans la nature des réseaux sociaux de le devenir, pourquoi l'État ne proposerait-il pas un réseau social public, comme pour d'autres produits et services comme Poste Canada ou la SAQ? Les monopoles ne sont pas illégaux. C'est l'abus de cette position de force qui contrevient à la loi. Le Bureau de la concurrence surveille ces entreprises pour bloquer les pratiques déloyales. La nature même du web favorise toutefois l'hégémonie. C'est l'effet de réseau. On s'abonne là où nos amis se trouvent déjà. Un réseau social géré par l'État semble une belle idée en principe. La réalité technologique et financière brouille cette piste. Meta ou Google paient des milliards de dollars pour leurs serveurs et même leurs câbles sous-marins. Le fardeau fiscal d'un tel projet public pèserait lourd sur les citoyens, sans certitude de rentabilité. Sans parler des fiascos financiers à répétition que sont les projets informatiques gouvernementaux. Confier nos conversations privées au gouvernement soulève aussi des questions de confidentialité. Les algorithmes des sociétés privées causent déjà des soucis. Imaginez si la concentration de nos données passe aux mains de l'État. Le risque de surveillance serait majeur. Une solution envisagée par plusieurs gouvernements dans le monde est de resserrer les lois qui encadrent déjà les plateformes actuelles pour limiter leur portée, que ce soit auprès des mineurs, des personnes plus vulnérables ou des secteurs économiques jugés essentiels. C'était « Mythes et légendes informatiques », pas toutes fausses. Un texte d'Alain McKenna paru le 20 mai 2026 dans la presse.
Le CN verse 1 million de dollars à des organismes montréalais en itinérance. Un texte de Jeanne Corriveau, paru le 20 mai 2026 dans Le Devoir. Le Canadien national entend consacrer 100 millions de dollars pour soutenir la prévention de l'itinérance au cours des 10 prochaines années au Canada et aux États-Unis. À Montréal, 4 organismes œuvrant auprès des sans-abri toucheront 250 000 dollars, annoncera la compagnie ferroviaire, mercredi. Si le CN a choisi la cause de l'itinérance, c'est notamment parce qu'il s'agit d'un enjeu de société que les employés de l'entreprise ont choisi d'appuyer, explique au Devoir Olivier Chouc, premier vice-président et chef de la direction des affaires juridiques au CN. C'est eux qui ont exprimé un intérêt pour faire quelque chose qui les connecterait à la communauté. Cette notion de donner à tout le monde un toit sécuritaire les rejoignait. 4 organismes montréalais, soit le Chaînon, Dans la rue, la mission Old Brewery et Projet autochtone du Québec, se partageront une somme d'$1 million pour poursuivre leur mission auprès des itinérants. Des sommes supplémentaires pourraient leur être versées ou être remises à d'autres organismes montréalais et québécois dans l'avenir, indique M. Chouc. Montréal figure parmi les 3 premières villes avec Chicago en Illinois et Winnipeg au Manitoba, a bénéficié du programme Cheminots du CN pour le changement, qui prévoit un financement de 100 millions sur 10 ans. Il faut aussi dire que le CN et ses employés sont des témoins au quotidien de la présence d'itinérants, car les terrains de l'entreprise ont, à plusieurs reprises, fait l'objet d'intrusions dans les dernières années. Olivier Chouc admet que l'entreprise a dû procéder au démantèlement de campements sur ses propriétés. Il n'y en a pas en ce moment, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas demain. Les abords des chemins de fer ne sont pas sécuritaires pour les campeurs et ceux-ci ne peuvent pas y être tolérés, souligne M. Chouc. Depuis plus d'un an, on a développé avec un partenaire un programme de formation pour aider les policiers du CN à intervenir auprès des campeurs avec compassion. Les itinérants sont mis en contact avec des ressources supervisées et on fournit des trousses de premiers soins et des sacs durables pour leurs effets personnels. Le CN qualifie de modeste sa contribution à la prévention de l'itinérance. C'est clair qu'il s'agit d'un enjeu qui requiert plus d'investissements et de ressources, souligne M. Chouc. Épandage de pesticides. L'entreprise ferroviaire insiste sur son engagement auprès des communautés, mais l'an dernier, elle avait été vivement critiquée lors de l'épandage de pesticides à base de glyphosate à proximité des quartiers résidentiels, alors que ce produit est interdit à Montréal en raison des risques pour la santé humaine et l'environnement. Olivier Chouc soutient que ce produit, approuvé par Santé Canada, est l'un des seuls moyens efficaces de contrôler la végétation sur la surface de petites roches sous les rails appelées ballast. C'est un enjeu dont on est très conscient. On étend le produit seulement sur le ballast. Pour tout le reste, on utilise la gestion mécanique. On demeure à l'affût des développements scientifiques pour que, si jamais il y a une autre solution aussi efficace, on puisse l'utiliser. C'était « Le CN verse 1 million de dollars à des organismes montréalais en itinérance », un texte de Jeanne Corriveau, paru le 20 mai 2026 dans Le Devoir.
J'ai réalisé qu'il fourrait son jumeau. Une chronique de Samuel Larochelle, parue le 19 mai 2026 dans le magazine Fugue. Il s'est avancé dans le théâtre une dizaine de rangées devant mon siège. Quelques mois après avoir crissé mon cœur par la fenêtre, il s'est assis avec son nouveau chum. Ma respiration s'est coupée. Puis j'ai pris le temps de les analyser et j'ai compris qu'il fourrait son jumeau. Cette chronique ne parle pas d'inceste ni des homosexuels qui écrivent « gay twins fucking » sur leur plateforme porno préférée en espérant voir des jumeaux identiques copuler. Il s'agit plutôt d'une invitation à réfléchir à un phénomène qui me fascine depuis longtemps, les gays qui se mettent en couple avec leur sosie. Parlons d'abord de la situation dont j'ai été témoin. 3 mois après qu'un homme ait mis fin à notre fréquentation pour se mettre en couple avec un autre dude, je les ai vus ensemble. J'ai d'abord eu une petite émotion, car je revoyais pour la première fois celui avec qui j'avais développé une forte connexion. Ensuite, j'ai ressenti de l'envie en le voyant embrasser son copain. Une parcelle de mon cerveau se disait « C'est à ça que j'aurais goûté s'il m'avait choisi. » Peu à peu, j'ai constaté à quel point il se ressemblait. Même calvitie, même trait du visage, même look vestimentaire. Et selon mon stalkage sur Instagram, même physique, je n'ai pas pu m'empêcher de dire à l'ami qui m'accompagnait « On dirait qu'il couche avec lui-même. » Bien entendu, ce sont des humains distincts. Ils n'ont pas le même parcours de vie, la même personnalité ni le même métier. Mais pourquoi cette préférence? Quittons maintenant cet exemple précis pour réfléchir au sujet de manière globale. Qu'est-ce qui pousse un individu à ressentir de l'attirance pour un homme qui lui ressemble autant physiquement? Est-ce une façon, très inconsciente, d'apprendre à s'aimer soi-même à travers son partenaire? Un moyen de compenser la haine de soi ressentie par tant d'homosexuels quand ils comprennent qu'ils sont différents de la majorité? Ou plutôt, la démonstration qu'ils sont attirés par des corps et des visages qui correspondent aux mêmes standards qu'ils s'imposent ou qu'ils repoussent? En effet, les deux options sont possibles. D'une part, plusieurs amoureux s'imposent les mêmes habitudes de vie qui leur offrent des corps sculptés selon des critères précis, qui veulent la même coupe chez leur coiffeur et qui taillent leurs poils de la même façon. Comme si, en fournissant tous ces efforts pour atteindre une image préfabriquée qui les rend fiers et qui déploie leur amour-propre, ils en étaient venus à y résumer leur vision de la beauté et à chercher uniquement des hommes qui leur ressemblent. D'autre part, de nombreux individus vont vers des hommes qui n'ont rien à faire de ces carcans de beauté, qui ne lèvent pas le nez sur les corps plus ronds et plus poilus, qui ne s'obligent pas à porter les vêtements à la mode ou des coupes moulantes qui mettent en lumière leur corps et qui s'aiment ainsi. Dans ce refus des conventions de l'apparence, ces gays vont souvent, eux aussi, se mettre en relation avec des hommes qui leur ressemblent beaucoup. Un phénomène connexe s'ajoute aux gays qui fourrent leurs jumeaux. Celui des homosexuels qui deviennent, avec le temps, une copie conforme de leur partenaire. Je ne parle pas ici du petit plaisir que nous avons, en tant qu'humains attirés par des personnes de même sexe, de pouvoir emprunter une chemise, un pantalon ou un chandail à notre amoureux, mais bien des couples qui se transforment en duo de clones. Des amoureux qui, un jour, adoptent le même look vestimentaire, la même coupe de cheveux et la même barbe. Combien de fois ai-je vu, dans les rues de Montréal, des tandems formés par des hommes qui se ressemblent tellement qu'on dirait une situation arrangée avec le gars des vues. Peut-être que vous lisez cette chronique en vous disant que je réfléchis à un détail futile. Peut-être que j'accorde trop d'importance aux jumeaux qui tombent en amour. Peut-être que cette réalité observée des centaines de fois me surprend plus que vous, parce qu'il y a peu d'hommes à qui je ressemble assez pour faire partie de ce phénomène. Avec ma taille de géant, mes cheveux longs bouclés, les traits de mon visage que d'autres ont souvent décrits comme peu conventionnels et certains vêtements moins communs, les probabilités que j'ai un crush sur mon clone sont assez minces. Cela dit, je me questionne. Est-ce que le fait de côtoyer quelqu'un au quotidien peut nous pousser, sans trop nous en rendre compte, à adopter les choix de notre partenaire? Ou y a-t-il plutôt une évolution, inconsciente bien sûr, qui entraîne certains individus à perdre leur unicité? Comme si c'était rassurant de devenir l'autre et de suivre un chemin tracé par autrui, au lieu de s'interroger sur ses propres désirs. Au fond, je ne doute pas que ces amoureux soient heureux, mais j'ai du mal à voir la joie de se départir de ce qui nous rend unique. C'était « J'ai réalisé qu'il fourrait son jumeau », une chronique de Samuel Larochelle, parue le 19 mai 2026 dans le magazine Fugue.
Le roi Charles décapité. Un texte de Jean-François Nadeau paru le 19 mai 2026 dans Le Devoir. Avec le moissonnage qu'opèrent chaque jour les réseaux sociaux dans le champ de l'actualité, une impression va croissant. Chacun passe son temps à flairer le scandale du moment pour mieux courir d'une indignation à l'autre, sans plus se donner la peine de lever les yeux afin de regarder l'horizon du monde dans son épaisseur historique. Les sociétés continuent, au-delà de leurs emballements du moment, de se passionner pour les gestes spectaculaires, surtout lorsqu'ils consistent à faire tomber des têtes, parfois au sens propre, parfois dans l'ordre du symbole. Le 19 mai 1649 marque un moment fascinant. Il y a 377 ans, aujourd'hui, pour la première fois, un grand royaume européen abolit officiellement sa monarchie. Quelques mois après l'exécution de son roi, l'Angleterre devient un État gouverné au nom du bien commun plutôt qu'au nom du droit divin. En ce 19 mai, le Parlement anglais adopte une loi proclamant que le peuple d'Angleterre est désormais gouverné comme un « Commonwealth and Free State », un État libre sans roi. L'Angleterre se proclame république, un État sans monarque ni chambre des lords, cette assemblée héréditaire composée de grands aristocrates, d'évêques et de puissants propriétaires chargés, depuis des siècles, de défendre l'ordre établi. Le Commonwealth d'Angleterre naît sur les ruines de la monarchie. La tête du roi Charles est tombée. Soudain, les lions et les ours se mettent à trembler dans leurs habits lustrés. Quelques mois plus tôt, le 30 janvier 1649, Charles Ier était décapité à Londres, devant le palais de Whitehall, à l'issue d'un procès intenté pour haute trahison. Jusqu'au dernier moment, il avait soutenu qu'un roi tirait son autorité de Dieu. Or, pour la première fois depuis des siècles, ce n'était plus un souverain qui envoyait ses sujets à l'échafaud, mais un peuple qui faisait comparaître son roi, pourtant réputé gouverner au nom du droit divin. Juger un souverain revenait presque à défier l'ordre céleste lui-même. Un bouleversement de l'ordre politique traditionnel s'opérait par cette accusation inouïe. L'accusation à laquelle faisait face le roi était vertigineuse. Les accusateurs reprochaient au roi d'avoir trahi le peuple anglais en gouvernant comme un tyran et en menant une guerre contre son propre royaume. Le théâtre de Shakespeare avait depuis longtemps préparé les esprits à voir les têtes des rois tomber. Chez lui, la monarchie n'apparaît jamais comme un ordre immuable divin, mais comme une scène traversée par la peur, le sang, les conspirations et les renversements. Ces pièces sont pleines de souverains hantés, trahis, assassinés. Chez Shakespeare, le roi touche rarement les cieux et glisse plutôt vers un gouffre. le pouvoir y apparaît comme une position fragile, toujours menacée, où chacun sait qu'il peut un jour perdre sa couronne comme sa tête. Shakespeare montre ainsi que le pouvoir vit toujours avec la peur d'être décapité, ne serait-ce que symboliquement. Derrière cette révolution politique se joue une guerre civile. D'un côté, le roi Charles Ier et sa cour, partisans d'un pouvoir monarchique fort et du maintien des privilèges de quelques-uns. De l'autre, une coalition mouvante de parlementaires, de puritains, de marchands et de propriétaires terriens qui refusent l'autoritarisme royal, les impôts levés sans consentement et les tensions religieuses profondes qui traversent le royaume. Le grand chef militaire du camp parlementaire est Oliver Cromwell. Issu de la petite noblesse terrienne puritaine, il devient la figure de proue de la New Model Army, une armée disciplinée, idéologiquement motivée et redoutablement efficace. Après plusieurs batailles, les forces royalistes sont écrasées. Ce qui aurait pu devenir une expérience républicaine annonçant les révolutions américaines de 1776 et françaises de 1789 finit rapidement par prendre une tournure ambiguë. Officiellement, l'Angleterre devient une république. En pratique, Cromwell concentre progressivement entre ses mains un immense pouvoir personnel. Il gouverne comme un chef d'État autoritaire, soutenu par l'armée. Au nom de l'idéal puritain, les théâtres ferment, les fêtes populaires sont restreintes. Une discipline morale sévère s'impose à la société anglaise par un contrôle serré sur les mœurs. Le Commonwealth reste aussi lié à l'exercice d'une violence coloniale brutale en Irlande. Les campagnes militaires menées par Cromwell contre le peuple irlandais demeurent parmi les épisodes les plus traumatiques. Pour beaucoup d'Irlandais, le nom de Cromwell reste encore aujourd'hui le synonyme de massacre, de confiscation de terres et de domination. Cette triste expérience républicaine ne survivra pas longtemps. En 1660, la monarchie est restaurée. Charles II, le fils du roi décapité, règne. L'Angleterre préfère revenir à l'ordre ancien au prix d'un immense détour sanglant. Quelque chose avait changé, malgré tout. Une idée nouvelle venait de traverser l'histoire. Un roi pouvait être renversé, jugé et exécuté par son propre peuple. Le pouvoir cessait d'apparaître comme sacré et intouchable. Derrière la couronne pouvait désormais se profiler l'échafaud. Les siècles ont passé, mais la leçon est restée ancrée dans l'esprit des puissants. Nous avons toujours un Charles sur le trône. Ceux qui bénéficient de l'ordre des choses tel qu'il existe continuent de s'inquiéter dès qu'apparaît la possibilité d'un renversement. Ils ne savent que trop bien à quel point l'ordre social est réglé à leur avantage. John A. Macdonald l'exprimait clairement en 1884 alors qu'il s'affairait à mettre en place, sous le chapiteau de la monarchie britannique, l'ordre constitutionnel canadien. À Québec, le futur premier ministre du Canada déclarait ceci : « Nous devons protéger les intérêts des minorités et les riches sont toujours moins nombreux que les pauvres ». Ses successeurs ont suivi le chemin qu'il a tracé avec une ardeur qui force l'admiration. La guillotine n'est plus dressée sur les places publiques. Reste que son spectre symbolique continue de hanter l'imaginaire des dominants. Non sans raison. C'était « Le roi Charles décapité », un texte de Jean-François Nadeau paru le 19 mai 2026 dans Le Devoir.
ado retrouvée morte à Lévis, début de l'enquête publique sur le décès de Maïline Lougaez. Un texte de Dominique Lelièvre, paru le 27 avril 2026 dans Média, le journal de Montréal. L'enquête publique sur le décès d'une adolescente de 13 ans dans un boisé près de son école en 2024 à Lévis a débuté lundi au Palais de justice de Québec. Maïline Lougaez avait tristement été retrouvée sans vie le 7 novembre 2024 dans le secteur de Saint-Jean-Chrysostome, dans le ruisseau d'une forêt située à plusieurs centaines de mètres de son école. Elle avait quitté l'établissement la veille, sur l'heure du dîner, et n'avait pas été revue. 24 heures s'étaient écoulées depuis le signalement de sa disparition. La perte d'une enfant de 13 ans est une épreuve d'une profondeur difficilement concevable. Bien que nul ne puisse véritablement mesurer une telle douleur, je veux vous assurer que cette enquête sera menée avec le plus grand respect et toute la rigueur requise et en profonde considération pour la mémoire de Maïline, a affirmé le coroner Luc Malouin en ouverture de l'audience. La coroner Sophie Rignière a publié un premier rapport dans lequel elle conclut à un décès accidentel par noyade, possiblement attribuable à un malaise. Le document a toutefois été critiqué par la famille de l'enfant, notamment son père, Samuel Lougaez, qui, dans un reportage de Radio-Canada, déplorait qu'il demeure trop de zones d'ombre entourant la tragédie. Les proches de Maïline Lougaez regrettaient que le rapport élude la grande détresse psychologique qui l'habitait. M. Lougaez critiquait également l'interruption des recherches terrestres pendant la nuit. Nous reconstruirons ensemble la trame des événements à partir de la preuve présentée ici dans ce tribunal. Autrement dit, on efface l'ardoise et on recommence, a poursuivi Maître Malouin. Le coroner expérimenté, qui a piloté l'enquête publique sur la mort des petites Nora et Remy Carpentier à Saint-Apollinaire, a été désigné le 11 novembre 2025 par le coroner en chef, Maître Renaud Bernier, pour faire la lumière sur les événements. Il entendra plus d'une vingtaine de témoins durant les 5 journées d'audience inscrites au calendrier, y compris le père et la mère de la jeune défunte. C'était « Ado retrouvé morte à Lévis », début de l'enquête publique sur le décès de Maïline Lougaez, un texte de Dominique Lelièvre, paru le 27 avril 2026 dans le Journal de Montréal.